Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R Dubois et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone monsieur Mexan Morel. Bonjour.
Bonjour.
Mexan Morel, vous faites partie du réseau Dromois de l'éducation à l'environnement. Et pour cela, vous êtes avec nous pour nous parler d'une journée qui aura lieu le 22 avril à la MFR de Mondy. Avant tout, on peut peut-être vous demander, Mexan, les compétences que vous amenez au sein de ce réseau.
Oui, bien sûr. Donc moi, je suis dans le réseau depuis février 2024. Je suis le deuxième salarié au sein de ce réseau qui a plus de 20 ans. Et moi, je venais du monde du développement local à l'international. Donc des petits projets de développement et de mise en réseau au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et centrale, et en Asie. Donc j'ai travaillé avec des institutions publiques, comme le Consulat de France, ou des ONG, des associations. Et les compétences que j'amène, c'est de l'animation de réseau, de la coordination de projets. Comment est-ce qu'on arrive à mettre des personnes d'accord et en mouvement pour des projets à plusieurs, justement.
Cette passion pour l'environnement vous a pris depuis un moment, donc, avec ces expériences à l'international. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir qui fasse commun entre humains ?
De ce que j'ai pu voir, moi je suis né dans la ville, puis j'ai quand même grandi à la campagne, avec les cabanes, etc. Donc toujours un peu proche quand même des environnements naturels, disons. Et j'ai remarqué aussi bien que ce soit au Vietnam ou au Rwanda, tout le monde a des plantes chez soi, à côté de chez soi, en profite et s'en occupe. Et j'ai quand même noté aussi, dans mes différentes expériences, activités, un éloignement progressif, on peut dire, et rapide, des humains, des humaines avec les environnements naturels dans lesquels les générations précédentes ont pu évoluer.
Et c'est le contexte... Pardon.
Bon, c'est pour résumer après.
Oui, le contexte social, économique fait partie aussi de ce bouleversement, de ce désintérêt, de cet éloignement avec la nature.
Je ne sais pas s'il y a un désintérêt au niveau des personnes qui travaillent dans ces champs-là ou même le champ économique. Je pense plutôt que... Non, il y a un vrai intérêt sur où est-ce qu'on pose le curseur aujourd'hui. Entre développement économique et protection de l'environnement. En tout cas, ça a été beaucoup le cas, j'ai l'impression, les dernières décennies. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte, ça pousse pour qu'on puisse un peu plus voir la liaison qu'il y a entre développement économique et protection de l'environnement. L'un et l'autre sont liés. Je pense que le Covid a bien montré ça aussi. Mais je me souviens que c'était une question au Vietnam qui était bien polémique. Je me souviens du premier ministre vietnamien à l'époque, j'y étais en 2017, qui avait posé la question... aujourd'hui, le peuple vietnamien doit choisir entre son développement économique ou la protection de son environnement. Ce qui, dans le contexte vietnamien, pour le coup, est peu tenable parce que montée des eaux, beaucoup de personnes habitent sur le littoral. Donc, en fait, ces deux questions sont liées.
Et puis, chaque territoire a ses particularités géographiques, géologiques aussi. Et ça, c'est une prise en compte également.
Complètement. On ne fait pas les mêmes projets et on ne se déplace pas pareil dans des milieux de montagne. Dans des milieux de ville ou dans du littoral, et indépendamment aussi, comme vous disiez, à la question des précédentes, des possibilités socio-économiques. Après, de tout endroit où j'ai pu aller, je crois que même si on n'a pas d'accès à la route ou à l'eau chaude, on a quand même un smartphone qui traîne pas loin, dans la maison ou dans la case, ou dans l'appartement dans lequel on vit. Il y a quand même une uniformisation, j'ai l'impression, au niveau de certaines consommations, en tout cas. En tout cas, des accès, des façons de faire lien, de faire réseau entre les humains.
Fort de cette expérience, donc, vous agissez maintenant au sein du réseau Dromois d'éducation à l'environnement. On peut peut-être expliquer ce qu'est ce réseau Dromois et en quoi consiste-t-il et quelles sont ses actions.
Oui, bien sûr. C'est un réseau qui est né à la fin des années 90. Je crois qu'on est en 98 quand le réseau se formalise. Donc, c'est une vieille structure, c'est un vieux bateau. Et depuis le début, le but de ce réseau départemental, c'est de mettre en lien les acteurs, les actrices de l'éducation à l'environnement, au développement durable. L'objectif principal, on va dire la finalité, c'est vraiment de créer du lien entre les humains et le vivant sauvage par des pratiques de pleine nature. Et donc pour ça, le réseau il favorise la mise en lien des acteurs. Donc pour monter en compétences, il y a une cinquantaine de structures ou de petites entreprises ou même d'individus qui se réunissent dans ce réseau et qui ont toutes des compétences différentes. Des géologues, des professionnels des insectes volants au sol, des professionnels de l'humus, des professionnels des étoiles. Donc ils peuvent pratiquer ensemble des moments de co-formation pour monter en compétences. Puis c'est aussi mettre en lien les acteurs pour échanger et mutualiser des pratiques d'animation notamment, et des outils d'animation, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien, selon les publics aussi. Et se mettre en réseau, l'une des grandes raisons aussi pour lesquelles les acteurs, les actrices se sont mis en réseau, c'est permettre un bon maillage du territoire. Il y a plein de demandes sur l'échelle de la Drôme, des structures qui sont très différentes, des scolaires, des associations de villages, de territoires, des centres de loisirs, de l'accueil de loisirs, des maisons de retraite, des clubs de rando, etc. Et là, au sein du réseau, on bénéficie d'un ensemble de compétences avec des personnes qui connaissent leur territoire localement et leur thématique. Et donc, on peut répondre précisément aux différentes demandes qu'on peut avoir, demandes de pratique et d'animation à l'extérieur.
Par rapport à cette expérience à l'international, est-ce qu'il y a eu des difficultés pour justement essayer de retrouver cette coexistence entre la biodiversité et l'humanité par rapport à des structures ou...
Alors, si les animateurs et les animatrices nature, eux, s'occupent de faire du lien, on va dire, entre les enfants la plupart du temps, ou les humains et le vivant sauvage, moi, je m'occupe du coup de faire le lien entre les acteurs de projet, les animateurs ou les animatrices nature, et les institutions. Donc, je peux arriver à voir que, en fait, aujourd'hui, l'intérêt principal, j'ai l'impression, au niveau des pouvoirs publics, il va se trouver au niveau des enjeux de santé. Les îlots de chaleur, les problématiques de pollution de l'air, de pollution sonore, les problématiques aussi liées à la santé mentale des jeunes et des adultes, toutes ces problématiques en fait peuvent trouver des réponses dans des pratiques de pleine nature ou dans le fait de sortir. Des choses qui avaient été déjà vues il y a assez longtemps en France avec les premières écoles à l'extérieur qui étaient pour des enfants qui avaient des problématiques respiratoires. Et aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus qu'on nous demande d'agir au niveau des écoles, au niveau des centres urbains, ou même au niveau plus rural, dans des communes dans lesquelles il y a de la forêt, il y a des arbres. Mais en fait, on remarque que les enfants, et encore une fois les adultes, passent de plus en plus de temps sur leurs écrans et ne sortent pas. Et s'ils sortent pas, ils ne peuvent pas connaître ce qu'il y a dehors. Et si on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Et du coup, on ne protège pas. On part du principe qu'on protège ce qu'on aime et qu'on aime ce qu'on connaît. D'où l'idée de faire vivre des expériences à l'extérieur. Des fois, ce discours-là, il est un petit peu éloigné, des techniciens ou des élus, mais j'ai l'impression que l'entrée de santé devient de plus en plus, utilisée pour finalement arriver à des projets, d'éducation à l'environnement.
Alors cette éducation, c'est aussi le maître mot hein, de ce rendez-vous du 22 avril, puisque le titre étant Biodiversité et humanité, deux points, comment éduquer pour coexister? Ça se passera donc à la maison familiale rurale de Mondy, à côté de Bourges de Péage. On peut peut-être présenter aussi cette maison familiale, son expérience et puis ce qu'elle propose en général.
Oui, bien sûr. La MFR de Mondy, c'est un lieu et une structure qui est très emblématique au sein du réseau et même au sein de notre département. C'est une structure, c'est l'école de la nature. C'est un lieu phare pour la formation, l'éducation à l'environnement et au développement durable depuis plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, il y a des animateurs et des animatrices nature qui ont plus de 30 ans d'expérience et qui sont passés par ce lieu de formation. C'est un très bel endroit. Qui était il y a très longtemps un lieu agricole, puis qui a été un château, enfin, avant de devenir un lieu de formation. Et on a la chance de compter sur la MFR comme membre du réseau emblématique depuis longtemps. Et on a la chance qu'ils nous accueillent cette année, du coup, avec de nombreuses salles et aussi de très beaux extérieurs.
Puisque vous disiez qu'il y avait à peu près une cinquantaine de structures hein, qui sont associées à ce réseau, la maison familiale rurale de Mondy en fait partie, je suppose.
Oui, elle
Et
en fait partie et elle administre aussi, enfin, elle est au conseil collégial, on n'a pas que l'administration, on a un conseil collégial au sein du réseau. Et elle est au conseil collégial depuis plusieurs années.
est-ce qu'il existe aussi d'autres lieux similaires que ce MFR? Au niveau de votre organisation ou peut-être un peu au-delà de la Drôme?
Des écoles par la nature, pour la nature, oui, il y a l'école Caminando, il y a aussi l'école, le centre agroécologique Les Amanins, qui est connu aussi. Aujourd'hui, on voit fleurir de plus en plus de lieux agroécologiques qui ont aussi comme part importante de leur modèle économique ou même de leur valeur, l'éducation. Et c'est des lieux en fait d'expérimentation sur le terrain. Je pense aussi au jardin Graines de Cocagne, qui ont deux fermes dans la Drôme. Donc oui, il y a plusieurs structures qui font de l'éducation et de l'animation nature une grande activité.
Donc, le réseau drômois d'éducation à l'environnement existe depuis 98, 1998, je crois. Cela laisse presque 30 ans d'expérience. Et est-ce qu'il y a, en quelque sorte, un retour de cet investissement de la part des personnes qui y sont passées, par exemple? Est-ce qu'il y a aussi un entretien ou une relation qui perdure au-delà de ces passages?
Ouais, je commence à remarquer, bon, ça fait un an moi que je suis dans le réseau, mais j'ai l'impression qu'on est sur des projets d'éducation et des projets de nature qui sont des projets long terme. Et il y a aussi la volonté des personnes qui sont dans le réseau de prendre le temps et de voir les choses aussi grandir, on va dire. Donc, et j'ai la chance aussi de pouvoir bénéficier, enfin au niveau des 50 membres, il y a des membres qui sont actifs et d'autres qui sont très actifs. Et il y a quand même un renouvellement. Donc on voit, j'ai envie de dire, les anciennes générations qui étaient là il y a 20 ans dans le réseau, qui sont encore là sur des activités qui leur plaisent plus ou sur lesquelles ils ont envie de continuer à aider. Puis il y a aussi des professionnels plus jeunes qui sont là. Donc j'ai vraiment la chance de bénéficier de ce remplacement, on va dire, tout en ayant une présence bienveillante, efficace et plein d'expérience des anciens, on va dire, et des anciennes du réseau.
Il y a aussi donc dans cette proposition de journée un abord qui sera il s'agira de réinventer les manières de vivre avec le vivant et pour cela vous allez proposer plusieurs intervenants qui pourront entre autres opérer des conférences, mais aussi des temps d'échange. Il y a aussi cette question de l'urgence écologique au pluriel, et ça, c'est aussi un embarras du choix que vous avez pour traiter toutes ces problématiques.
Oui. Après, là, notre point, il est vraiment sur l'éducation, en fait, les différentes approches pédagogiques pour sensibiliser. Avec, là, je commence à révéler un peu le contenu, mais j'ai l'impression aujourd'hui que l'enjeu, il est le changement de discours qu'on peut avoir par rapport à notre place dans la nature. On va beaucoup avoir la nature d'un côté et les humains de l'autre. Comment est-ce que d'autres civilisations, d'autres narratifs, on va dire, peuvent nous impliquer un peu plus dans la nature et du coup ce qui permet de reprendre notre place. On remarque que pour ça, donc c'est les différentes approches pédagogiques, qu'elles soient sensibles, ludiques ou cognitives, qui nous permettent en fait d'intéresser les petits humains que sont nos enfants aux vivants autour d'eux. Il y a dans l'écosystème, on va dire, des acteurs de protection de l'environnement ou de la biodiversité. Le réseau Dromois est un acteur militant et engagé, mais on va se concentrer beaucoup sur l'éducation, l'animation et les questions d'urgence climatique pour nous, elles nous motivent à travailler bien. Mais le sens de nos actions, il est vraiment sur comment est-ce qu'on relationne dans le futur avec le vivant, comment est-ce qu'on écrit de nouvelles histoires par rapport à lui. Plus que comment on va on va préserver nos territoires de l'inondation ou des différents réchauffements qui peuvent y avoir lieu. Après, on pense aussi que ces moments de nature, c'est aussi des moments de lien social. Et je pense que réagir à l'urgence climatique, c'est aussi compter les uns sur les autres, donc faire du lien aussi entre nous.
La pédagogie s'opère auprès d'enfants, j'imagine, de plus jeunes, enfin, peut-être d'adolescents ou d'adultes dans vos propositions.
Question de à qui est-ce que s'adressent les animations donc des experts au sein du réseau. Initialement, l'éducation à l'environnement s'adressait particulièrement au public enfant. Et depuis quelques années, les professionnels de l'éducation à l'environnement comprennent qu'ils sont trop peu nombreux par rapport à la nécessité et l'urgence dont vous parlez de recréer du lien avec le vivant. Et ils s'adressent de plus en plus aux adultes, aux professionnels. Au sein de l'éducation nationale, mais au sein aussi des accueils collectifs de mineurs auprès des éducateurs, des éducatrices, des instits, et des adultes en général, des parents, pour les inciter à sortir dehors, à les outiller pour qu'ils puissent avoir confiance dans leur sortie, que ce soit faire classe dehors ou faire une nuit de bivouac avec les jeunes de la maison de quartier. Enfin voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui nos professionnels au sein du réseau peuvent outiller ces adultes, ça c'est une question de plus en plus centrale, et donc oui, il y a de plus en plus d'activités auprès des publics adultes, que ce soit de la formation ou même de la pratique pleine nature, comme je disais.
Alors, pour le programme, il s'agira d'un programme immersif et stratégique. Vous nous expliquerez en quoi. Et en matinée, il y aura une conférence action avec Hervé Brugnot, qui est chercheur en ethnopédagogie. Et il proposera une immersion entre salle et extérieur pour expérimenter concrètement la coexistence avec le vivant. Donc, comment peut-on introduire cette proposition?
Eh ben, c'est exactement, enfin, par rapport à la thématique, on est vraiment sur voilà, comment est-ce qu'on éduque pour coexister. Et Hervé Brugnot, ce qu'il nous propose de nous montrer en une demi-journée, donc avec pratique et théorie, c'est comment est-ce que notre façon de se voir et de se situer par rapport au monde peut changer bah, notre façon de se relier à lui. Pour ça, lui, il s'inspire d'autres expériences qui peuvent se trouver dans d'autres géographies. Il utilise aussi des instruments sonores, électromagnétiques. Enfin voilà, il a toute une boîte à outils. C'est quelqu'un d'assez pareil emblématique dans l'éducation à l'environnement. Il a été professeur de plusieurs personnes au sein du réseau. Et pour répondre à la première partie de la question, l'après-midi, elle va tourner aussi avec plusieurs ateliers, justement pour avoir accès à ces différentes façons de faire de la pratique en pleine nature. On aura des ateliers sensibles, d'autres un peu plus sur des inventaires de biodiversité. Il y aura aussi un retour d'expérience sur la renaturation des lieux éducatifs. Ça avait vraiment été la thématique des premières rencontres il y a plusieurs années. Comment est-ce qu'on renature les cours d'école? Il y aura aussi la présence d'une professionnelle de Valence Romand Agglo, qui montrera comment est-ce qu'on mène des campagnes pédagogiques au sein des collèges dans une collectivité. Et on aura aussi le GREN, qui est le réseau pour le cours régional, qui viendra présenter le plan régional de l'éducation par la nature, qui vient de sortir cette année. Donc la région a donc un plan pour les prochaines années.
Il y a aussi en soutien, vous avez le conseil départemental de la Drôme également, la caisse d'allocation familiale, l'agence régionale de santé et le SDJES. Peut-on préciser ce
Complètement.
que c'est?
Oui, et ben là on a des acteurs sociaux qui sont vraiment support pour la vie sociale en général, mais aussi pour la vie associative. Le SDJES, c'est anciennement le service jeunesse et sport, qui lui est particulièrement attaché aux missions de renaturation, de végétalisation des lieux éducatifs. La CAF 26, elle soutient la mise en lien des acteurs, la montée en compétences et aussi la renaturation des lieux éducatifs, les accueils sociaux de loisirs et les crèches. L'ARS, l'Agence régionale de santé, elle s'attache particulièrement à tous ces enjeux justement de santé et environnement. Et d'ailleurs, j'ai oublié un atelier l'après-midi. Il y aura aussi un atelier qui montrera comment est-ce que l'ESE, les enjeux de santé et environnement, prennent une grande place dans le plaidoyer notamment pour favoriser le sortir dehors.
Ma question était aussi de savoir quelle est cette colonne vertébrale qui maintient donc ce réseau drômois de l'éducation à l'environnement. Je pensais lors de votre exposé à cette classification opérée au siècle des Lumières pour classer les animaux, les plantes et peut-être de mettre l'humain au-dessus de tout. Est-ce que ça aussi c'est une manière de revoir un peu notre positionnement de l'humanité face à la nature.
Oui, complètement. Même si on est dans une époque où aujourd'hui il y a différentes façons de voir les choses, il y a quand même une base naturaliste, on va dire, au sein du réseau, qui questionne aujourd'hui la classification pyramidale des espèces. Mais je pense qu'aujourd'hui, la colonne vertébrale du réseau, on va dire le dénominateur commun, au-delà de la mise en lien et de la mise en lien entre eux, entre elles et avec l'environnement, c'est tout simplement d'être vivant, en fait. Je pense que c'est vraiment le socle commun aujourd'hui et de ne pas se retrouver seul face au changement, aux transformations brutales et un peu violentes, enfin carrément violentes, que vivent nos écosystèmes.
Parliez donc de ces ateliers thématiques avec comment s'initier à la renaturation des espaces. Alors, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui sera proposé aux participants. Peut-on donner un exemple d'activité?
Bah, par exemple, Jean-Marie Buzzarello, qui travaille dans une son entreprise s'appelle Zimeline, lui va travailler donc le but ça va être d'observer, de comprendre et de transmettre la biodiversité du lieu de la MFR. Donc c'est un atelier qui va durer 1 heure. Et pendant 1 heure, les participants pourront aller observer, référencer, identifier les différents êtres vivants dans un espace assez réduit, et ils pourront en déduire du coup les autres êtres vivants qui vivent. Et donc il y aura une reconstruction un peu de chaîne, on va dire, locale. Un autre exemple qu'il y aura, c'est par exemple Floriane Landreau de l'entreprise Flonature. Elle va plus faire une immersion sensitive, donc comment est-ce que nos sens, le sentir, l'odeur, l'ouïe, les oreilles peuvent nous replacer justement dans notre environnement et qu'est-ce que nos sens peuvent nous apprendre de là où on est et donc de qui on est aussi, en quelque sorte. D'autres ateliers seront beaucoup plus, on va dire, formels. On présentera concrètement le projet de Livron-sur-Drôme. Un projet de plusieurs années où 4 cours d'école ont été complètement débitumisés et renaturés. Donc, on présentera des photos, des budgets et on répondra aux questions peut-être des élus, des techniciens qui seront présents. Les ateliers pourront durer une demi-heure comme celui sur la renaturation ou 1 heure comme les 2 premières que je vous ai présentées qui seront des sorties dehors, sur le terrain.
C'est à votre connaissance, à la suite, parce que depuis plus de 25 ans, donc, vous opérez ce réseau Drômois, je voulais savoir si il y avait une transmission et une continuité suite à cette éducation à la nature et de là à une application d'exploitation agricole, par exemple.
Oui, on voit qu'il y a des continuités, donc il y a des façons d'animer en fait qui changent. On s'occupe pas aujourd'hui de public enfant comme on s'en occupait il y a 20 ans. Il y a aussi de nouvelles problématiques qui ont émergé, soit qui ont émergé, soit qu'on voit un peu plus. Donc il y a aussi des choses nouvelles. Par exemple, les problématiques de genre aujourd'hui sont beaucoup plus prises en compte. Quand on voit que 70% d'une cour d'école est souvent prise par 20% des enfants pour jouer au foot, et ben c'est peut-être des choses qu'on voyait moins à l'époque. Donc c'est quand même des choses qui peuvent changer. De même, les problématiques liées au public spécifique, les enfants porteurs de troubles de l'attention avec sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique sont aussi pris en compte. Comment est-ce que les sorties, les animations nature peuvent être plus inclusives? Ça, c'est des choses peut-être qu'on travaillait moins il y a 20 ans, ou alors seulement quelques têtes de pont, on va dire. Après, les approches naturalistes scientifiques qui sont à la base, quelque part, des animations, bah, je pense qu'elles suivent aussi bah, le, les découvertes scientifiques qu'on peut faire, notamment ce qu'on peut avoir au niveau de la communication au niveau des arbres ou ce genre de choses qui sont en train d'arriver, l'importance des réseaux de mycélium. Enfin voilà, il y a de nouvelles notions qui apparaissent, de nouvelles découvertes qui font aussi changer notre façon de parler de biodiversité. Mais je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une compréhension des liens, en tout cas, ou plus qu'une étude des espèces ou des êtres différents. On va passer peut-être plus de temps et on va peut-être se concentrer sur les liens entre les espèces et le vivant.
Cela, c'est compris, ça a été compris par beaucoup d'adhérents à votre structure. On parle de techniciens de collectivité, d'élus, d'enseignants, professionnels de santé ou de l'animation. Donc, il y a des regards croisés, hein, sur ces objectifs. Est-ce que, justement, au-delà des, je dirais, le gros mot clivage politique, il y a quand même une nécessité à ce que l'écologie, soit, hein, le bien de tous et puisse être partagé par tous.
Oui, je pense que aujourd'hui, la croissance de l'utilisation du terme d'enjeu de santé environnement et de la notion d'une seule santé, ça veut dire que la santé des individus sont liées à la santé des écosystèmes, ça on s'en rend compte de plus en plus. Et je veux dire, indépendamment de notre bord politique ou qu'on soit apolitique ou très politisé, on est tous, j'ai envie de dire, on a tous les mêmes besoins physiologiques au niveau des températures, de la propreté de l'eau et de sécurité. Et aujourd'hui, la protection de l'environnement, ou en tout cas la mise en lien avec le vivant, peut apporter beaucoup de réponses. Indépendamment du bord politique d'une mairie, rapporter de la fraîcheur dans une école, ça devient indispensable pour que les classes puissent se tenir au mois de juin, même au mois de mai aujourd'hui. Après, c'est plus sur comment est-ce qu'on le fait. C'est vrai qu'un réseau comme le nôtre va peut-être plus insister sur la participation, les mécanismes participatifs, sur l'implication de l'enfant dans les décisions qui le concernent, donc notamment ses espaces extérieurs ou l'implication des corps enseignants dans leurs espaces de travail. Peut-être que d'autres visions un peu plus descendantes, on va dire, de mise en place de projets. On pense au réseau que si les projets sont pensés en relation entre les décideurs et les bénéficiaires, c'est peut-être plus compliqué, mais ça c'est mon rôle de faciliter ça. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est des projets qui sont plus durables et qui sont plus appréciés. Et on a des publics qui s'impliquent finalement dans ces projets. Ce qui permet aussi, c'est dommage, mais ce qui permet aussi de combler des fois les manques de financement qu'il peut y avoir pour ce type de projet d'animation ou d'aménagement.
Nous arrivons à la fin, donc je voulais préciser que ça sera un mercredi 22 avril de 8h30 à 16h30. Donc ça sera à la maison familiale rurale de Mondy à Bourg-de-Péage. Et le public, donc, ce sont des professionnels de tous ordres et des élus, des acteurs de l'environnement et de l'éducation.
Et de la santé aussi.
Et de la
Et c'est un
santé.
événement sur inscription. Donc,
Voilà.
si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à contacter le réseau via son adresse email.
Alors, l'adresse
Contact.
email, c'est contact@rdee26.org, c'est ça?
C'est cela, exactement. Vous
Voilà.
êtes toutes et tous bienvenus.
Et puis, il y a un site internet, hein, www.rdee26.org, pour connaître un peu votre engagement. Maxence Morel, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps sur cette journée du 22 avril et puis de l'action du réseau Dromois d'éducation à l'environnement. Et je vous souhaite une
Merci.
bonne fin de journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.